Okapi.
Le journal Noël Alozi Tukabambi.
Okapi.
Il appartient au gouvernement congolais de décider comment il entend négocier avec le CNDP. Déclaration du sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix en séjour depuis hier à Kinshasa. Alain Leroy soutient aussi que la mission des Nations Unies à RDC veut reconfigurer ses forces pour une meilleure protection des populations civiles à Goma et ailleurs dans le pays. À la suite d'un conflit de pouvoir coutumier au sein d'une même famille royale au Kasaï oriental, plus de 150 maisons ont été incendiées et le marché du village Bakwansumba saccagé. Plus de détails tout à l'heure. Rendre la ville de Lubumbashi plus propre, c'est la mission confiée à une brigade d'assainissement qui vient d'être mise sur pied par le gouvernorat du Katanga, comme nous le dira Donat Chimboge depuis Lubumbashi.
Okapi, Okapi.
Bonjour à tous. La MONUC entend reconfigurer ses forces pour mieux protéger les populations civiles à Goma et ailleurs en RDC. Propos du sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Alain Leroy, en séjour à Kinshasa. Depuis hier, il l'a déclaré ce dimanche à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue avec le Premier ministre Adolphe Muzito et en présence du chef de la MONUC, Alain Doss. Alain Leroy a aussi indiqué qu'il appartient au gouvernement congolais de décider comment il entend négocier avec le CNDP. Quant au déploiement d'une force multinationale qui viendrait en appui à la MONUC, le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies a affirmé que son institution n'y est pas opposée. Alain Leroy est au micro d'Axel Goncho.
Il est clair que notre mandat, c'est de protéger les civils à Goma comme ailleurs. Et donc, je lui ai indiqué, monsieur le Premier ministre, que nous réfléchissions comment nous allons peut-être essayer de voir comment on peut reconfigurer la force pour augmenter encore notre présence dans la région de Goma. Et en même temps, j'ai fait part de tous les efforts que nous faisons sur le plan politique à travers le secrétaire général des Nations Unies à l'égard de l'ensemble des acteurs de la région, justement, pour retrouver une solution pacifique.
Le CNDP demande des négociations directes avec le gouvernement. Les Nations Unies entrevoient-elles une piste par rapport à cette demande?
Là-dessus, c'est vraiment l'affaire du gouvernement de décider comment il souhaite le faire. J'ai bien compris, le Premier ministre a rappelé qu'il souhaitait que tout se passe dans le cadre du programme Amani et que dans ce cadre-là, il était prêt à ouvrir des discussions.
Que pensez-vous de l'idée d'une force multinationale qui viendrait en appui à la MONUC telle que proposée par le ministre français Bernard Kouchner?
Au niveau des Nations Unies, nous n'avons aucune objection là-dessus, mais je comprends que pour le moment, au niveau des pays européens, il n'y a pas encore d'accord sur cette question. Mais en même temps, d'ici là, notre première priorité, c'est de reconfigurer nos forces avec les forces que nous avons aujourd'hui pour que la présence militaire à Goma et autour de Goma soit plus importante.
Une autre force militaire pour appuyer la MONUC, c'est justement ce que propose l'organisation humanitaire britannique Oxfam. L'Oxfam exhorte l'Union européenne à déployer un contingent militaire en République démocratique du Congo pour apporter un soutien aux soldats de maintien de la paix des Nations Unies en raison de la guerre à l'est du pays. Selon Juliette Prodan, chef d'Oxfam en RDC citée par l'AFP, l'Union européenne est bien placée pour fournir rapidement les troupes supplémentaires dont le peuple du Congo-Kinshasa a désespérément besoin. En rapport toujours avec l'Est du Congo démocratique, sachez que des milliers de personnes déplacées qui avaient fui il y a 7 jours l'avancée des rebelles sur Goma reprennent depuis hier dimanche le chemin de retour vers leur village. La route principale reliant Goma au centre administratif de Rutshuru était une nouvelle fois envahie par des centaines de personnes selon l'agence France-Presse. Par ailleurs, un couvre-feu a été décrété sur toute l'étendue de la ville de Goma depuis samedi, mesure prise par le gouverneur du Nord Kivu 5 jours après la panique qui a perturbé toutes les activités dans cette partie de la RDC à l'approche des rebelles de la ville de Goma. Ce couvre-feu s'étend de 23h à 5h du matin sur toute l'étendue de la capitale provinciale. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, affirme que cette décision a pour but de renforcer la sécurité et de rassurer la population du retour au calme dans la ville de Goma. À savoir aussi en ce qui concerne la situation au Nord Kivu, les conséquences de cette guerre sont également vécues par les populations du Sud Kivu. On assiste à une flambée de prix depuis un moment sur le marché à Bukavu, notamment les prix de la majorité de produits de première nécessité qui venaient de Goma. La Fédération des entreprises du Congo FEC Sud Kivu a rencontré les responsables de la province pour évaluer la situation. Un reportage de Adolphe Ngoy rendu par Lévin Mbwinga.
Sous le marché de Bukavu, les ménagères s'étonnent du changement brusque des prix des produits qui constituent la base de repas de leur famille. La mesure de farine de manioc communément appelée nama est passée de 300 francs congolais le lundi dernier à 400 francs ce week-end. Celle de haricots est passée de 600 à 1000 francs congolais pour ne citer que ces deux produits. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Sud Kivu, s'inquiète. Il faut que la guerre cesse au Nord Kivu pour reconstituer l'économie de notre pays, dit-elle. Au cours d'une rencontre qu'elle a organisée à l'adresse des autorités urbaines ce week-end, le président de la FEC Sud Kivu a déclaré qu'il faut encourager l'agriculture en province pour parvenir à la création de stocks stratégiques en vue d'une auto-prise en charge alimentaire provinciale ensuite, en attendant que les autorités exonèrent les produits vivriers. Contacté au sujet de la demande de la FEC, l'exécutif provincial a promis de plaider pour sa population et envisage de soumettre ce problème au gouvernement de Kinshasa dans les tout prochains jours.
Plus de 150 maisons ont été incendiées et le marché saccagé. Cela s'est passé hier dimanche matin à Bakwansumba, un village du territoire de Miabi, situé à près de 50 km au sud de Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. À l'origine, un conflit de pouvoir coutumier au sein d'une même famille royale. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un arrêté du ministère de l'Intérieur, réhabilitant officiellement un membre de cette famille en qualité de chef de groupement. Aucune perte en vie humaine, encore moins de blessés, ne sont signalés. Billy Yvan Lutumba pour les détails.
Cette nouvelle de l'inspection provinciale de la police signale que les querelles autour de ce trône entre deux groupes d'une même famille royale datent bien de quelques mois. Depuis, les autorités politico-administratives avaient décidé d'écarter les deux adversaires et placer une personne neutre comme intérimaire. Pendant ce temps, les démarches des deux protagonistes, parmi lesquels un député provincial, se poursuivaient. C'est ainsi que ce dernier trouvera gain de cause par un arrêté du ministre de l'Intérieur. La nouvelle s'est vite répandue comme une traînée de poudre jusqu'à Bakwansumba. Des jouissances en sont ainsi suivies. Ceci n'a pas enchanté le camp adverse et la tension est montée d'un cran. Tard la nuit, les incendies ont commencé jusqu'à 4h du matin, affirme l'inspecteur provincial de la police. Alerté, le ministre provincial de l'Intérieur et le général de la police se sont rendus ce dimanche sur les lieux en vue de rétablir la paix. Parmi les mesures prises, sur soi, la cérémonie de réhabilitation du député provincial en tant que chef de groupement, arrestation des instigateurs des incendies, renforcement de la police avec un peloton de 20 éléments. En plus, une demande de fermeture provisoire de la chaîne de radio locale Monka pour diffusion prématurée d'une nouvelle non encore officielle auprès des autorités locales. Le général Patience Moussi Diavre a par ailleurs que le calme est revenu dans le village. Billy Ivan Lutumba, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kinshasa, signalons l'investiture du gouvernement Mouzito ce dimanche au Palais du Peuple, mais plusieurs heures auparavant, à la Chambre basse du Parlement, les députés ont débattu du programme d'action de ce même gouvernement. En gros, les exposés des députés ont tourné autour des problèmes sécuritaires et socio-économiques. Les groupes parlementaires ont mis en exergue les lacunes de ces programmes et ont fait des recommandations. Je vous rappelle que la principale mission du gouvernement Mouzito est de pacifier l'est de la RDC. Éducation à présent, le CIECO et le SINECAT, deux principaux syndicats de l'enseignement en RDC, appellent leurs affiliés à la reprise des cours dès aujourd'hui lundi sur toute l'étendue du territoire national. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale tenue le week-end dernier à Kinshasa. Ces syndicats ont décidé de suspendre la grève pendant 45 jours pour accorder un peu de temps au nouveau gouvernement et lui permettre de se pencher sur leurs revendications salariales. Je vous propose d'écouter à ce propos Jean Bosco Puna, secrétaire général du SINECAT. Il est joint par Axel Goncho.
Les enseignants ont décidé d'observer une trêve. Ils ont souhaité que nous donnions 45 jours francs au gouvernement pour répondre aux desiderata des enseignants qui sont restés entiers jusqu'à ce jour. Les enseignants qui sont restés fidèles au mot d'ordre des grèves, ils sont invités de reprendre le travail le lundi 3 novembre 2008.
Qu'est-ce qui motive cette décision?
Il faudrait accorder un minimum de délai de grâce à ces gouvernements en qui on a confié le besoin social des bases et la situation de l'Est ne nous a pas laissé indifférents.
Restons à Kinshasa où le Congrès national de l'Union nationale de la presse congolaise s'est clôturé ce week-end. L'ancien comité reconduit se dit satisfait du travail abattu ces 4 dernières années en vue de rétablir à nouveau la confiance entre l'UNPC et des bailleurs de fonds. Cette institution veut recenser tous les journalistes congolais opérant à RDC et qui sont en ordre avec la législation nationale, comme l'explique la présidente de l'UNPC Chantal Kanimbo. Elle est au micro de Olga Ndombassi.
Le bilan du travail que nous avons effectué, c'est surtout le travail très 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 ardu de rétablir la confiance vis-à-vis des partenaires. Parce que comme vous le savez, les partenaires ont interrompu leur partenariat avec l'Union nationale de la presse du Congo à la suite des indélicatesses de notre prédécesseur. Et le travail à faire, c'était de rétablir cette confiance. Et je pense que ça a donné quelques résultats, puisque nous avons l'impression qu'on fait de nouveau confiance à l'Union nationale de la presse du Congo. Parmi les attributions du Congrès, c'est entre autres révisiter les statuts pour voir éventuellement s'il faut les amender.
Okapi, toutes les impôts de l'ensemble du pays.
L'actualité en province nous conduit d'abord au sud Kivu. Quelques espèces d'animaux en voie de disparition, comme les chimpanzés, les tortues marines et terrestres, ainsi que des perroquets gris, sont regroupés au sanctuaire de Sidao à Kabare. Une délégation provinciale de l'environnement l'a visité ce week-end. Le ministère de tutelle a confié la garde de ces terres protégées à l'ONG locale Biologiste pour la santé et le développement communautaire Biosadec. L'ONG entrevoit de relancer les activités du tourisme en province à travers ce sanctuaire. Pour rappel, la province du Sud Kivu a été dotée de 5 sanctuaires par arrêté ministériel d'août 2008. Lutte contre l'insalubrité dans la ville de Lubumbashi au Katanga. Une brigade d'assainissement vient d'être mise sur pied par le gouvernorat du Katanga. La brigade comprend plus de 400 cantonniers avec 6 camions poubelles qui sillonnent chaque jour les avenues de la capitale cuprifère pour ramasser les ordures et laisser ainsi la ville très propre. À Lubumbashi, Donatien Bosch a vu ses cantonniers à l'œuvre.
C'est une nouvelle pratique à laquelle assistent les Louchois. Depuis quelques jours, une véritable armée d'hommes et femmes, de bleus vêtus, prennent d'assaut chaque matin les artères de la ville. Balais, râteaux, pioches et brouettes en main. Ils sont aussi équipés de bottes et cache-nez. Les sachets, papiers et autres déchets qui traînent sur la chaussée, et même des fleurs mortes qui tombent des arbres, sont littéralement évacués. Des caniveaux sont débouchés, des ruisseaux curés. Le gouvernorat du Katanga a mis le boucher double. 4 camions poubelles mis à la disposition de la brigade ramassent ces ordures. La population les entasse simplement au coin des grandes artères, considérées comme des dépôts transitoire. Après le ramassage, les déchets sont stockés au grand dépotoir où ils seront prochainement transformés en engrais. 3 anciens bourgmestres de l'équipe sortante, appréciés pour leur dynamisme, pilotent cette brigade d'assainissement. Elle est annoncée aussi cette semaine dans les quartiers populaires de Lubumbashi. Lubumbashi, Donatien Bosch, Radio Okapi.
À Kinshasa, certaines parties de la ville sont dans le noir, notamment les communes de Gombe, Ngaliema, Kintambo et Bandalungwa, et sans électricité, difficile pour la population de ces communes de suivre l'actualité nationale et internationale, notamment les élections présidentielles américaines de demain, mardi 4 novembre. Déjà sur le plan national, la cérémonie d'investiture du gouvernement n'était pas suivie par la grande partie de la population, faute de courant électrique. La SNEL attribue la situation à la panne du transformateur du poste de Lingwala à hauteur de la sous-station. Mais que compte faire la SNEL pour satisfaire les besoins de la population congolaise en courant électrique? La DG de la SNEL, Bernadette Tokwaoulou Aina, est avec Olga Ndombassi.
Nous avions un problème au poste de Lingwala. Nous l'avons résolu en partie et au moment de remettre en transformateur le service, nous en sommes rendus compte que les enroulements principaux devaient être changés. Ces enroulements vont arriver cette nuit, le travail va se faire demain. Donc, les gens qui sont sous délestage en raison du poste de Lingwala vont subir encore ce délestage pendant 10 jours. S'agissant maintenant de suivre la campagne électorale américaine, il y a un programme spécial qui a été mis en place pour qu'on puisse maîtriser le délestage pendant cette nuit électorale. Donc ceux qui ont l'électricité au début de la nuit électorale l'auront jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas l'électricité en début de la nuit électorale ne l'auront pas jusqu'à la fin. Donc c'est ça le programme de délestage qui est en cours.
Ailleurs en Afrique, le nouveau président zambien, Rupia Banda, a promis hier de se consacrer au combat contre la pauvreté dans son pays, déclaration faite à l'issue de la cérémonie d'investiture. Mais en dépit de la croissance soutenue favorisée par une politique économique stable ces 7 dernières années, 64% des 12 millions de Zambiens vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. 51% survivent avec moins de 1 $ par jour. En sport, Al Ahly d'Égypte a fait un pas vers son 6e sacre en dominant hier dimanche Coton Sport de Garoua sur le score de 2-0 en match de la finale aller de la 12e édition de la Ligue des champions de football de la CAF. Les deux équipes se retrouvent dans 14 jours à Garoua au Cameroun pour le match retour. Al Ahly d'Égypte reste toujours le grand favori face aux champions du Cameroun, Coton Sport, qui recherche sa toute première coupe dans cette prestigieuse compétition africaine. C'est par ici que prend fin cette édition d'information, mais l'information continue sur le site web de Radio Okapi, www.radiookapi.net.